Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. La police américaine à nouveau accusée de bavure après la mort de deux Noirs en quelques jours. Des émeutes ont éclaté à Charlotte en Caroline du Nord. Nous ferons le point avec Frédéric Carbone dans un instant. L'Inde achète à la France 36 avions Rafale. Il s'agit du plus gros contrat à l'exportation pour le constructeur Dassault. Sébastien Farcy nous appellera de New Delhi. L'actualité politique française, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, répond aux attaques de Nicolas Sarkozy sur la situation à Calais. Nous verrons cela avec Stéphane Robert. Invité de ce journal, Fabien Gache, délégué central CGT chez Renault, le groupe automobile veut renégocier l'accord compétitivité de 2013. La question raciale hante à nouveau l'Amérique en pleine campagne présidentielle. En quelques jours, la police américaine a tué deux Noirs à Tulsa, dans l'Oklahoma. L'homme considéré comme suspect n'avait pas d'armes. En revanche, à Charlotte, en Caroline du Nord, la police affirme que le suspect était armé. C'est un policier noir qui l'a abattu. Charlotte, où des émeutes ont éclaté, faisant une douzaine de blessés parmi les forces de l'ordre. Frédéric Carbone, les autorités ont déployé dans la ville un important dispositif de sécurité.
Après les violences de la nuit, la priorité pour les autorités de cette ville, c'est l'apaisement. Mais on sent bien que les braises ne demandent qu'à être attisées. D'abord, parce que les versions sur ce qui s'est passé sont très contradictoires. Vous avez le chef de la police qui fait un récit très détaillé. Il parle d'un homme armé dans son véhicule à qui il est demandé clairement de lâcher cette arme et qui sort de sa voiture sans obtempérer. C'est là que les policiers tirent. Et de l'autre côté, la famille et de nombreux pasteurs noirs de la ville qui affirment que la seule arme était un livre et qui réclament justice. Du coup, au même moment, vous avez deux conférences de presse aux tonalités totalement différentes et des appels à manifester à nouveau ce soir. En fait, pour les centaines de personnes qui étaient dans la rue la nuit dernière, il s'agit d'un exemple de plus de vie qui ne compte pas. Et les propos sont les mêmes. Dans un autre état, l'Oklahoma, où là, un homme noir a été tué par la police dans la ville de Tulsa, et où les images sont sans ambiguïté. Voici d'ailleurs ce que dit Donald Trump, grand défenseur habituellement de la police, après les avoir vus.
That man was hands up.
Cet homme avait les mains en l'air. Il se dirigeait vers son véhicule, les mains en l'air. Pour moi, il faisait tout ce qu'on lui demandait de faire. Et ce jeune officier de police, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais je suis très troublé par ces images. Nous devons faire très attention.
Alors une retenue, vous l'entendez, une solennité inhabituelle. Le candidat républicain était, il est vrai, dans une église noire lors de ce discours. Mais ses propos illustrent les craintes de dérapage. Quand cela va-t-il cesser, demande pour sa part Hillary Clinton. Charlotte en Caroline du Nord, Tulsa dans l'Oklahoma, marque clairement l'irruption brutale de la violence policière et de la question raciale dans cette campagne.
Frédéric Carbone, notre correspondant aux États-Unis, merci. Après l'Égypte et le Qatar, l'Inde est devenue aujourd'hui le troisième pays client du Rafale. Le gouvernement indien a donné son feu vert à l'achat de 36 exemplaires de l'avion de chasse français, montant du contrat plus de 7 milliards d'euros, contrat record pour le constructeur Dassault. Cela faisait 9 ans que l'avionneur français négociait la vente de Rafale à l'Inde. Négociation difficile avec un partenaire qui voulait imposer ses conditions. Sébastien Farcy nous appelle de New Delhi.
C'est le cabinet gouvernemental de sécurité présidé par le Premier ministre qui a donné son feu vert à un achat attendu depuis si longtemps. Le Rafale avait été choisi dès 2012 par l'armée de l'air indienne car il était considéré comme le plus performant et le moins cher des avions de chasse en lice. À cette époque, New Delhi voulait en acheter 126 dont 108 devaient être fabriqués en Inde avec un important transfert de technologie. Trop compliqué logistiquement, ce plan a finalement été abandonné il y a 18 mois par le Premier ministre Narendra Modi, qui a décidé à la place d'en acheter 36, fabriqués cette fois en France. Le contrat, qui sera signé vendredi à New Delhi avec le ministre français de la Défense, devrait s'élever à 7,8 milliards d'euros. Dassault et les autres équipementiers français devraient alors en échange s'engager à réinvestir la moitié de cette somme dans l'industrie indienne. Les premiers Rafales seraient livrés dans 3 ans pour venir renforcer une flotte indienne vieillissante et trop peu nombreuse pour faire face aux menaces de ses voisins chinois et surtout pakistanais.
Sébastien Farcy, merci. François Hollande a demandé au ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian de se rendre dès vendredi à New Delhi pour sceller ce contrat. Bernadette Chirac a été hospitalisée aujourd'hui à Paris à la Pitié-Salpêtrière. Elle y a rejoint son mari Jacques Chirac, admis le week-end dernier pour une infection pulmonaire. Le gendre du couple, Frédéric Salabarou, évoque l'extrême fatigue de Bernadette pour justifier son hospitalisation. S'agissant de Jacques Chirac, Frédéric Salabarou a balayé les rumeurs de son décès, colportées notamment par Christine Boutin. Il en appelle au respect de la vie privée du couple Chirac. L'actualité politique passée par Calais aujourd'hui. Nicolas Sarkozy s'est rendu sur place pour rencontrer les habitants du Calaisis, excédés par l'afflux de migrants dans la ville. L'ex-président s'est d'ailleurs bien gardé de se rendre dans la jungle. Il n'avait visiblement pas l'intention d'entamer le dialogue avec quelques-uns des 10 000 candidats à l'exil entassés dans ce bidonville à ciel ouvert. Nicolas Sarkozy refuse que la France soit, je cite, « submergée par les migrants ». Il exige le démantèlement rapide de la jungle. Au même moment, à Paris, le gouvernement avait choisi de riposter à ces attaques. Stéphane Robert, c'est Bernard Cazeneuve qui a été chargé de cette riposte.
Opération déminage aujourd'hui du ministre de l'Intérieur. Bernard Cazeneuve est allé ce matin s'expliquer sur sa gestion des migrants de Calais devant la commission des lois du Sénat. Et puis cet après-midi, c'est devant les responsables français des cultes qu'il s'est livré à un méthodique exercice de pédagogie face aux accusations et aux outrances de personnalités comme Laurent Wauquiez ou Nicolas Sarkozy. Le ministre oppose la nécessité d'une gestion humaine et responsable de cette crise migratoire.
Il y a à Calais entre 6500 et 7500 migrants qui relèvent pour plus de 80% d'entre eux du statut de réfugiés en France, parce qu'ils ont fui leur pays après avoir subi des persécutions et relèvent de la protection sur le territoire européen et dans notre pays. Nous avons par ailleurs mis en place 164 centres d'accueil et d'orientation en France, qui ne sont en rien des mini-Calais, contrairement à ce que j'ai pu entendre à la faveur d'une propagande qui convoque des contre-vérités, mais des centres dans lesquels des associations en liaison avec l'administration de l'État accompagnent des réfugiés vers l'intégration et l'asile en France.
Bernard Cazeneuve a par ailleurs rejeté le procès en laxisme qui lui est fait sur cette question migratoire à travers un argumentaire minutieusement chiffré de la politique menée face à cet afflux de migrants en France et à Calais en particulier. Il y a eu 1500 expulsions de migrants économiques pour Calais depuis le début de l'année, a expliqué le ministre, et les effectifs de police et de gendarmerie ont doublé sur place en l'espace de 2 années. Par ailleurs, concernant la politique menée pour démanteler les camps de migrants calaisiens, Bernard Cazeneuve a admis ce matin devant la commission des lois du Sénat que ses services incitaient et réussissaient à convaincre une large majorité des personnes déplacées depuis Calais vers des centres d'accueil et d'orientation de déposer des demandes d'asile en France, alors qu'à l'origine, elle souhaitait se rendre en Grande-Bretagne.
Stéphane Robert, merci. À propos de Nicolas Sarkozy, l'ex-président est officiellement, depuis aujourd'hui, l'un des 7 candidats à la primaire de la droite et du centre, les 20 et 27 novembre prochains. Ils étaient encore 8 hier, mais Hervé Mariton a finalement été recalé. Il lui manquait 24 petits parrainages. Bénédicte Robin, on trouve dans la liste 6 hommes et une femme.
Et ces candidats, il faut commencer par les nommer dans l'ordre alphabétique. Jean-François Copé, François Fillon, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Jean-Frédéric Poisson et Nicolas Sarkozy. L'ancien président, sur les talons d'Alain Juppé, a lancé la campagne officielle dès ce matin en se rendant à Calais. Comme pour donner le ton de son programme, immigration, contrôle aux frontières, identité, que l'on a compris gauloise ces derniers jours, à l'opposé de son principal rival, toujours favori des sondages, l'ancien Premier ministre Alain Juppé et son identité heureuse, économiquement libérale mais plus modéré. Un de ses objectifs, séduire le centre. Une position que critique un François Fillon qui se verrait presque comme un Thatcher à la française. Avec retour aux 39 heures, retraite à 65 ans, coupe franche dans les dépenses publiques. Le discours a de la peine à se faire entendre pour le moment. Alors qu'à côté de lui, Bruno Le Maire se présente comme l'outsider montant qui veut incarner le renouveau des élites politiques. C'est sa marque car ses idées se distinguent peu de ses concurrents. Quant aux 3 derniers, peu de chance qu'ils pèsent réellement sur l'issue du scrutin. Nathalie Kosciusko-Morizet a bouclé ses parrainages in extremis, mais elle portera sa voix progressiste sur le plan sociétal contre le chantre de la droite décomplexé Jean-François Copé, qui lui pourrait grignoter les voix de Nicolas Sarkozy. Quand Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate et successeur de Christine Boutin, qualifié d'office en tant que chef de parti, aura sans doute comme défi de se faire mieux connaître du grand public. Il en aura en tout cas l'occasion au cours des 3 débats prévus les 13 octobre, 3 novembre et 17 novembre prochains.
Bénédicte Robin, merci. Dans l'actualité sociale à présent, d'importantes négociations débutent demain chez Renault. Le constructeur automobile veut renégocier l'accord de compétitivité signé en 2013. Il y a 3 ans, le groupe était en difficulté alors qu'aujourd'hui il dégage des bénéfices. Et les syndicats souhaitent justement que la direction tienne compte de ce redressement. La CGT, première organisation chez Renault, réclame l'embauche de 14 000 salariés en 3 ans pour compenser les départs et en finir avec la précarité. Le syndicat veut aussi le retour au principe d'une augmentation général des salaires. Fabien Gache, délégué central CGT chez Renault, est l'invité de ce journal. Bonsoir.
Bonsoir.
Fabien Gache, vous êtes d'accord pour parler compétitivité avec la direction de Renault ?
On va écouter parler compétitivité, oui, sachant que l'accord du 13 mars 2013 n'a absolument pas permis de l'améliorer, hein, contrairement à ce qui était vendu à l'époque, puisque s'il y a eu réduction d'effectifs très importante depuis cette date, c'est-à-dire qu'on va atteindre près de 9000 suppressions d'emplois, on a dans le même temps fait exploser le nombre d'intérimaires et aussi le recours aux prestataires, en particulier dans l'ingénierie. Ce qui fait que lorsque la masse salariale, par exemple sur Renault Maison Mère, a baissé de 116 millions, le coût de l'intérim et de la prestation a augmenté quant à eux de 193 millions, auxquels s'ajoutent par le biais et consécutivement aux pertes d'emplois une vraie problématique de la qualité, parce que évidemment, qui dit prestataire, précarité, dit aussi turnover, dit problématique en termes de formation. Et ça se ressent de manière très très forte sur la capacité de monter des voitures et de les concevoir sans problème ou sans retouche. Et ce qui fait que depuis cette date, le nombre de retouches, par exemple, a littéralement explosé. Et donc, voilà, la vraie problématique aujourd'hui, c'est de voir que les stratégies qui a été mises en œuvre par le biais de l'accord s'est traduite par le contraire de ce pourquoi... Elle a été encore une fois vendue par la direction.
Donc vous souhaitez que la direction renonce à cette logique de précarisation de l'emploi au sein du groupe Renault ?
Bien sûr, parce qu'elle est socialement inacceptable. D'abord pour les intérimaires, bien sûr, hein, puisque dans une certaine mesure, on assiste à un appauvrissement, qu'on le veuille ou pas, d'une population ouvrière entre autres, mais aussi plus largement, y compris désormais de techniciens ou d'ingénieurs, par le biais de la prestation. Et puis économiquement pour l'entreprise, parce que c'est un très mauvais calcul. Et on le voit, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec des surcoûts, en tout cas un coût d'obtention de la qualité qui, lui, prend des proportions phénoménales. Donc on pense que, à défaut d'aborder sereinement cette question-là, comme on avait proposé déjà de le faire en 2013, serait fragiliser encore davantage de l'entreprise sur le moyen et long terme. Et à ce moment-là, je crois qu'on sera en possibilité de s'interroger sur l'avenir de l'entreprise, tout simplement.
En même temps, Fabien Gache, le groupe Renault va mieux, les comptes sont redressés aujourd'hui.
Alors, si on regarde effectivement la situation d'un point de vue purement financier, c'est-à-dire entre la marge opérationnelle, donc le taux de rentabilité et les résultats nets, mais ce qu'il faut aussi voir, c'est que ces chiffres-là ne sont pas obtenus par une meilleure compétitivité de l'ingénierie ou de la fabrication, mais tout simplement par à la fois une augmentation des ventes de l'entreprise qui sont dues à deux phénomènes, c'est-à-dire à la fois l'augmentation du marché et le renouvellement de la gamme Renault, puisque Renault dispose d'une très belle gamme et qui plaît, et tant mieux. Et la deuxième chose, c'est aussi parce qu'on a largement augmenté les prix de vente aux clients. Si je prends qu'un seul exemple, la Clio 4 qui est fabriquée pour 25% à l'usine de Flins, et le reste étant fait en Turquie, le prix de vente catalogue a augmenté de 22% depuis la mise en œuvre de l'accord compétitivité. En définitive, les résultats financiers sont consécutifs. En fait, ce sont les clients qui, tout simplement, aujourd'hui, ont permis de financer et d'atteindre des taux de rentabilité aussi importants.
Et ça, c'est une politique qui n'est pas tenable à long terme, selon vous ?
Non, bien sûr, parce que de toute façon, on voit bien, le client a été pénalisé, je viens de l'évoquer, par une augmentation des prix. Il l'est pénalisé parce que les délais de livraison n'ont jamais été aussi longs chez Renault. Quel que soit d'ailleurs le véhicule, ça va de 3 mois, voire à plus de 6 mois pour certains modèles. Et aussi avec à la clé des appels, des rappels de véhicules pour mise au point qui, eux, ont aussi progressé. Donc je pense qu'à un moment ou un autre, cet aspect-là des choses finira par pénaliser lourdement l'entreprise, bien sûr.
Fabien Gache, délégué central CGT chez Renault, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Des syndicats et plusieurs associations, dont la CGT Solidaire et la Ligue des Droits de l'Homme, viennent de lancer une nouvelle édition d'un livre destiné à montrer, je cite, le caractère mensonger des idées de l'extrême droite. En finir avec les idées fausses propagées par l'extrême droite, c'est le titre de cet ouvrage, publié demain aux éditions de l'Atelier. Ouvrage écrit par un journaliste indépendant et enseignant à Sciences Po, Vincent Hédin. On termine avec le temps demain, une belle journée pour saluer l'arrivée de l'automne. Il fera beau presque partout, à noter toutefois un ciel encore encombré d'averses dans l'extrême sud-est, des nuages aussi en Bretagne et en Normandie avec quelques gouttes possibles. Les températures maximales 20 à 24 degrés sur la moitié nord, 23 à 27 au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.